Bonjour à tous. Merci de nous avoir conduits dans ce temps de, dans ce temps devant notre Seigneur et d'avoir pu proclamer notre assurance que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui prend soin de ses enfants, qu'il est bon d'être avec lui et de proclamer, oui, qui il est. Nous voulons donc maintenant avoir ce temps d'écoute de la parole de notre Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, mais nous ferons la lecture dans un instant. Dans la période de l'Avent, comprenant donc les quatre dimanches avant Noël, il y a des objets de décoration, des objets symboliques qui sont utilisés pour marquer ce temps. Dans le cas des quatre, c'est le cas pardon, des quatre bougies qui sont parfois mises dans nos foyers, mais aussi dans nos églises, et ça fait plusieurs moments, plusieurs années que nous prenons cette tradition de mettre ces bougies, de les allumer au fur et à mesure que les dimanches avancent et qu'on se rapproche de Noël. Donc vous avez compris, nous sommes le troisième dimanche, et dimanche prochain il y en aura encore un, et puis après c'est Noël. Donc voilà, les choses arrivent. Le plus souvent, j'aimerais vous inviter à réfléchir un petit peu. Est-ce que vous savez, ces bougies, qu'est-ce qu'elles symbolisent? Les bougies et les couleurs. Bien souvent, donc, aussi bien les couleurs que les bougies donc, sont là pour symboliser quelque chose dans les objets qu'on se sert dans nos cultes. Et donc, c'est le cas des bougies. Le plus souvent, c'est la couleur rouge. Que nous avons dans nos églises en France, et ceci pour évoquer le feu et dont la lumière qui vient donc par le Sauveur. Mais il faut savoir qu'en Suède, elles sont blanches. Et là, elles symbolisent, donc c'est un symbole de fête, un symbole de pureté, encore en lien avec la venue du Christ. En Autriche, elles sont violettes. On les voit rarement violettes, hein, mais en Autriche, c'est le cas. Et elles sont symboles de pénitence pour nous préparer à sa venue. Donc, vous voyez, les couleurs ont leur symbolique. En ce qui concerne les bougies allumées au fil des dimanches, le premier dimanche, la bougie symbolise le pardon. Et là, c'est toujours pareil, c'est un accord, enfin, c'est par rapport à ce que le Seigneur nous a apporté. Le deuxième dimanche, la bougie symbolise la foi. Le troisième dimanche, elle symbolise la joie. Et le quatrième dimanche, la bougie symbolise l'enseignement des prophètes annonçant un règne de paix et de justice. Parfois, si vous allez un peu sur Internet, vous tapez quatre bougies, c'est le symbole des quatre bougies, vous avez aussi le symbole de l'amour, le symbole de l'espoir qui donc, est donné à une des bougies. Paix, amour, espoir. Dimanche dernier, notre frère Jean nous a parlé de la paix que nous recevons en Dieu par notre Seigneur Jésus. Nous sommes attardés avec Marie, avec Jésus, avec le prophète Jérémie. Et je vous propose ce matin de vous parler du pardon qui est donné avec la venue de Jésus-Christ. Donc, un des points qu'on met en avant dans ce dimanche de l'Avent, le pardon. Et de souligner combien nous avons le bénéfice du pardon de Dieu de nos péchés, par la venue de notre Seigneur Jésus. Et pour cela, nous allons tenir compagnie à un vieil homme du nom de Siméon, et c'est l'évangéliste Luc qui nous rapporte sa rencontre avec les parents de Jésus et surtout avec l'enfant Jésus. Donc si vous avez vos Bibles ou si vous avez vos smartphones donc, allumés en Luc 2, je vous propose de faire la lecture à partir du verset 21 et ceci jusqu'au verset 35. Quand le huitième jour fut accompli, il, c'est Jésus, fut circoncis et il fut appelé Jésus, du nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et quand les jours de leur purification, la question de Marie, furent accomplis selon la loi de Moïse, on l'amena à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme c'est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Siméon, c'est un homme qui a bien vieilli. Les années sont passées, un vieil homme. Avec l'âge, il n'a pas sombré dans l'aigreur ou le pessimisme qui peuvent nous gagner dans la vieillesse, si on ne fait pas attention. Il a peut-être sa vue qui baisse, rien n'est dit là-dessus. Mais en tout cas, son regard intérieur est porté en avant, vers l'avenir, vers un avenir tout proche, un avenir qui l'attend. Qui sait qui va se passer dans sa vie. Il attend la consolation d'Israël, le salut d'Israël. Il attend le Christ, le Messie, l'envoyé du Seigneur, la lumière des nations. Il sait qu'il ne va pas mourir tant qu'il n'aura pas vu cet événement, tant qu'il n'aura pas vu le Sauveur. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait averti qu'il verrait donc avant de mourir le Christ promis. Voilà donc un homme qui attend la réalisation de la promesse, car il sait que donc, oui, ça va arriver. Pourtant, donc, le temps qui lui reste à vivre ne lui permet pas d'attendre trop longtemps. Et on peut se demander si des fois, il n'a pas douté de la révélation que Dieu lui avait faite. Car combien de fois est-il venu au temple sans voir la réalisation de ce que Dieu lui a promis ? Mais sa longue expérience de la fidélité de Dieu, sa connaissance des Écritures et son attachement à cette promesse de Dieu lui ont permis de surmonter ses éventuels doutes. On ne sait pas s'il doutait par moments. Siméon est un homme pieux qui espère et qui attend la réalisation des promesses de Dieu. Et comme beaucoup de personnes âgées, il avait bien sûr le temps de ruminer le passé en pensant à ce qu'il a vécu personnellement. Mais son cœur était rempli d'autre chose. Son cœur était rempli d'une grande préoccupation. Il était rempli de voir se réaliser les promesses de Dieu, vieilles de 400, de 700, de 1000 ans et de plus. Ces promesses d'un Messie promis, qui devait donc arriver, il devait les méditer, il devait se les accaparer, il les croit, il attend leur réalisation, il attend quelqu'un et pas n'importe qui, le Christ envoyé par le Seigneur Dieu. Allait-il chaque jour au temple depuis que l'Esprit Saint lui avait fait cette révélation qu'il verrait le Christ ? On ne sait pas. Mais conduit par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu. Siméon, donc, est poussé à aller au temple. Il sait qu'il doit y aller, car au fond de lui, l'Esprit le conduit. Ce jour-là, ce sont des gens modestes qui viennent au temple. Ce Joseph, cette Marie, qui n'ont pas les moyens d'offrir à Dieu un agneau, qu'ils présenteront à Dieu, donc, oui, cette offrande. Ils vont plutôt, au lieu de l'agneau, présenter l'offrande des pauvres, comme cela a été permis par la loi. C'est pourquoi ils vont offrir une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons pour leur enfant qui a environ 6 semaines. Au milieu d'autres gens, certainement, Siméon reconnaît que c'est eux qui amènent l'enfant promis. Siméon sait que leur enfant, c'est lui, le Messie qui l'attend. C'est cet enfant que Marie ou Joseph tiennent dans ses bras qui est la lumière des nations, un petit être, voyez, bien fragile. Mais de qui dépend le salut du monde? Alors, il s'approche, et certainement avec la permission de ses parents, il prend l'enfant Jésus dans ses bras. Et alors, son cœur est heureux, et il ne peut que bénir Dieu qui a réalisé sa promesse en donnant cet enfant. Que dit-il à Dieu? Permettez-moi de paraphraser la prière qu'il adresse à Dieu. Ô Seigneur, je peux partir maintenant, car mon cœur est encore plus en paix, car j'ai vu que tu as réalisé tes promesses au sujet du Messie promis. Je sais que cet enfant va devenir le Christ qui nous donnera ton salut. J'ai vu le Sauveur promis qui viendra éclairer les hommes de toutes les nations. J'ai vu notre Sauveur, j'ai vu mon Sauveur, lui te glorifiera et par lui ton peuple te glorifiera. Siméon ne savait sans doute pas tout ce que nous savons aujourd'hui depuis que Jésus est venu, mais il savait au moins ceci, que cet enfant relèverait son peuple en rétablissant tout ce qui est juste. Cet enfant, en devenant adulte, devra traiter, oui, le problème de la racine. Il sait que cet enfant doit amener un salut. Et pour cela, il devra traiter les problèmes à la racine pour donc que ce peuple puisse s'approcher de Dieu. Et pour donc s'attaquer à la racine, Jésus, cet enfant, devait s'attaquer au péché, afin de permettre à son peuple d'avoir une juste relation avec son Dieu. Siméon cite le prophète Ésaïe en affirmant que l'enfant Jésus sera une lumière pour les nations. Et comment sera-t-il une lumière pour les nations? En devenant leur sauveur. Il est bien celui qui apporte le salut, en devenant le sauveur de son peuple et des nations. En devenant, comme le souligne l'apôtre Jean dans son prologue au début de son évangile, la lumière qui est venue briller où? Dans les ténèbres, ténèbres dans lesquelles donc les hommes étaient, pour éclairer tout homme. Jean 1, versets 5 et 9. Siméon donc attendait, il attendait le Sauveur, il attendait celui qui apporterait le salut en éclairant les hommes de sa lumière. Mais cette lumière ne pouvait qu'éclairer les hommes qu'en chassant les ténèbres qui les emprisonnaient. Pour les hommes et femmes ayant foi en Dieu comme Siméon, ils attendaient bien un sauveur. Ils attendaient le Messie qui devait venir les libérer alors d'une emprise. Cette emprise, c'est avant tout celle du péché avec ses conséquences. C'est celle du péché avec ses conséquences. C'est pourquoi auparavant, les bergers dans la contrée de Bethléem entendent l'annonce de la bonne nouvelle. Que dit l'ange? L'ange n'annonce pas la venue d'un roi qui vient régner sur Israël comme certains l'attendaient, mais il annonce la venue du Sauveur, le Christ, le Seigneur. C'est aussi pourquoi l'ange qui se révélera à Joseph dira de Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. De ses péchés. À la suite de Siméon, la prophétesse Anne, qui verra Jésus, alors ne peut pas faire autrement qu'en parler aux gens qui viennent, à tous ceux qui attendaient, nous dit le texte, la rédemption de Jérusalem, le rachat. Cette attente d'un sauveur, cette attente de voir la réalisation de la venue de celui qui fera ce qu'il faut pour apporter le salut était bien là dans leur cœur, dans les cœurs de ceux qui désespéraient de voir leur situation spirituelle vis-à-vis de Dieu, de voir la situation en général de leur peuple, la situation des hommes des autres nations, une situation qui se décrit ainsi, une situation de pécheurs, avec le péché qui les éloignait de Dieu avec ses conséquences. Ces hommes et femmes qui attendaient le Sauveur aspiraient à le voir venir établir son règne. Mais cela était possible que si le péché était ôté dans les cœurs des hommes, que si ce qui empêche les hommes de plaire à Dieu était ôté, était réglé une fois pour toutes par ce Sauveur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu, nous le savons, pour donner sa vie en rançon pour ceux qui veulent être sauvés, pour ceux qui se reconnaissent des pécheurs, séparés de Dieu et qui désirent le pardon de leurs péchés pour pouvoir vivre avec Dieu. Les disciples et même les apôtres mettront un certain temps pour comprendre que le Christ, Jésus, avait choisi le rôle de serviteur et qu'il devait alors mourir sur la croix pour les péchés du monde. Il leur a fallu du temps pour comprendre que son règne de gloire n'était pas pour tout de suite et qu'il commençait d'abord dans les cœurs des hommes qui se repentent de leurs péchés en reconnaissant Jésus comme leur sauveur, celui qui accomplit le pardon de leurs péchés. Oui, Jésus est venu pour être notre sauveur, pour être celui qui pardonne nos péchés, qui donc fait en sorte que nous n'ayons plus affaire au péché et quand nous en avons affaire, que nous puissions donc, oui, combattre le péché en nous. Alors qu'en est-il de nous ? J'espère que chacun de nous pouvons affirmer que Jésus est notre sauveur. Je l'espère. Mais est-ce que le Seigneur Jésus est notre sauveur, celui qui nous aide à ne pas pécher ou qui enlève les péchés en nous qui sont là, qui des fois sont là depuis des années, qu'on n'a pas encore enlevés, qui sont peut-être là d'un coup, parce que d'un coup il y a des choses qui changent en nous, il y a des situations qui changent en nous, et puis d'un coup, ah, voilà. On s'est laissé tenter, il y a un péché. Est-ce que Jésus est notre Seigneur, celui qui nous aide à ne pas pécher ou qui enlève les péchés en nous tout le long de notre vie ? Car certes, Jésus est venu pour nous donner de bénéficier du pardon de nos péchés et nous l'avons, je l'espère, reconnu comme notre Sauveur en acceptant qu'il est mort à la croix pour nous pardonner nos péchés, afin de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Oui, c'est la conversion. Mais Jésus est venu aussi pour nous donner de pouvoir avoir une vie où le péché ne domine pas plus sur nous, ne domine plus sur nous, où le péché est une exception et plus une habitude. Il est et veut être notre sauveur, pas seulement pour notre conversion. Il veut l'être et il doit l'être aussi en agissant en nous par son Esprit Saint pour que nous ayons une vie qui ne s'accommode pas du péché. Parce que le péché nous priverait alors d'une vie sanctifiée, d'une vie pleinement avec Dieu à sa gloire. En donnant son Fils pour nous sauver de la perdition que nous méritions comme pécheurs, Dieu ne visait pas comme plan pour nous de nous permettre de bénéficier seulement de son pardon, d'être réconciliés avec lui, de bénéficier de son amour, de la vie éternelle. Mais il voulait aussi nous donner de pouvoir avoir une vie où le Sauveur Jésus agit en nous pour que nous ne tombions plus ou pas dans le péché. La bonne nouvelle de Noël retentit si nous péchons. La bonne nouvelle de Noël retentit si donc nous nous bataillons contre le péché. Pourquoi ? Quelle est cette bonne nouvelle ? Jésus est venu pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. À nous alors d'aller à lui pour demander son pardon, car il est Jésus, Dieu qui sauve. Dans les propos de Siméon qu'il adresse à Marie et Joseph, Siméon affirme que l'enfant Jésus est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Ainsi, Jésus sera une occasion de chute. Il sera une occasion de chute, par exemple, pour la classe des prêtres pervertissant la justice et collaborant avec l'ennemi pour se débarrasser d'un Jésus gêneur. Il sera une occasion de chute aussi pour les pharisiens confondus pour leur incohérence et leur rigidité. Pour Judas, qui espérait que Jésus régnerait dans la gloire en imposant son autorité et que cette gloire serait partagée alors avec lui, avec les apôtres. Il sera une occasion de chute aussi pour beaucoup de gens du peuple, car tout le monde n'avait pas envie de suivre Jésus. Mais Jésus a été une occasion de relèvement parce qu'il est venu appeler les pécheurs à la repentance, comme Marie-Madeleine, habitée par sept démons instables, il lui a donné une vie nouvelle. Matthieu Lévy, le renégat, le collabo, il lui a donné une nouvelle identité. Simon le zélote, c'est-à-dire le terroriste, Jésus a fait de lui un apôtre de la paix. La venue de Jésus a été pour plusieurs de son temps et jusqu'à aujourd'hui une occasion de relèvement en transformant la vie de ceux qu'il a pardonnés et rachetés. Il y a donc de l'espoir pour tout homme. Il y a donc de l'espoir pour toi, pour moi, pour nous, car Dieu veut transformer nos vies. Et si nous avons des problèmes ou si nous avons fait ce je ne sais quoi que nous pourrions en avoir honte, Jésus-Christ peut nous relever. Si tu sais que tu es bien bas, si tu as envie d'être pardonné, purifié, relevé, Jésus est venu sur terre pour toi. Et j'aimerais ce matin insister sur ce point, parce que c'est vrai, Noël c'est super, donc Dieu nous a donné un sauveur. Super, merci, et heureusement donc nous l'avons connu comme tel, hein, je l'ai dit. Mais cette œuvre salvatrice, cette œuvre de salut, c'est l'œuvre aussi de sanctification qu'il veut faire en nous. Jésus n'avait aucun péché, vous le savez. Et quand il est dit aucun péché, c'est-à-dire que, ouais, certes, il ne volait pas, certes, il ne trompait pas sa femme, d'ailleurs, il n'en avait pas. Donc, il ne mentait pas, certes. Alors, d'un coup, on voit les gros péchés, quoi. Mais même, je dirais, les petits péchés qu'on peut, nous, facilement dire, ben, c'est quand même pas si grave que ça. Il ne les avait pas non plus. Et vous savez quoi ? Dieu veut faire cette œuvre de sanctification en nous pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ, à notre Sauveur et notre Seigneur. Et là, il y a du travail jusqu'au bout, les amis. Dieu veut être votre Sauveur aujourd'hui et demain encore. Pas parce qu'il vous a sauvé une fois pour toutes. Ça, bien sûr, il est votre Sauveur. Mais aussi parce qu'il veut vous sauver de vos péchés. Il veut vous enlever ce qui vous éloigne de Dieu. Il veut vous enlever ce qui n'honore pas Dieu en vous, ce qui n'honore pas Dieu en moi. Et ça, je crois qu'il est important que nous nous le rappelions. Malheureusement, bien des personnes vivent avec Dieu en cachant des péchés, en cachant même, je dirais, une honte secrète en relation avec un péché. De plus que leur communion avec Dieu est entachée, ils peuvent en souffrir. Elles peuvent en souffrir. Cela peut être, par exemple, un jeune qui fume je ne sais quoi et qui s'en cache, un homme qui regarde des films porno à l'insu de sa femme, un autre qui n'est pas clair avec l'argent ou qui est accroché au jeu du hasard. Et on pourrait continuer comme ça. Des choses qui sont cachées, qu'on sait que pertinemment, on n'honore pas Dieu. Et pourtant, nous les traînons. Et peut-être même nous en accommodons. Mais Jésus est venu pour le pardon de nos péchés et pour ces péchés-là aussi. Il est venu pour nous sauver. Alors, est-ce que le Seigneur Jésus est toujours ton sauveur ou il y a des domaines dans ta vie où tu acceptes encore de pécher et tu négliges le secours et le changement que Dieu veut faire dans ta vie par Jésus notre sauveur? N'oublions pas que Jésus a tout fait pour nous pardonner nos péchés, quels qu'ils soient, et il veut que nous venions à lui pour enlever ce qui nous souille. Du temps de Siméon, on attendait le salut que Dieu avait promis en donnant le Messie. Il l'attendait parce que ces hommes et femmes soupiraient à être sauvés pour vivre une vie pleinement avec Dieu. Quand cette période de l'Avent et puis de Noël, où nous proclamons la bonne nouvelle, qu'il nous est né un sauveur, que nous avons un grand sauveur, que nous ayons alors ce désir de vivre pleinement avec Dieu, que nous puissions sonder nos cœurs pour voir si nous marchons fidèlement avec Dieu et que si un péché est encore toléré en nous, nous puissions nous en repentir et saisir le pardon de la vie et la victoire en Jésus. Qu'en cette période aussi, nous ayons comme Siméon un cœur qui bénit Dieu pour le don de Jésus, pour son si grand salut. Pour conclure, Siméon a attendu, il a vu le Sauveur et il s'en est réjoui. Et Siméon, en quelque sorte, nous place devant un choix. Serons-nous dans la paix ou en contradiction avec Jésus ? Dans la joie parce qu'à Noël, on va tout oublier, parce que c'est bien souvent ce qui se passe. À Noël, on l'oublie tout. Et c'est ça le problème cette année, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour oublier tout. On nous dit qu'il ne faut pas qu'on fasse ça, et on nous dit qu'on fasse ça, pas ça. Alors, est-ce qu'on va pouvoir ? Oui ? Serons-nous à Noël dans la joie, parce que finalement, dans tous ces artifices qui ont leur charme et certainement aussi leur plaisir, et que certains de ces artifices, il n'est pas interdit de les vivre. Où serons-nous dans la joie à cause de notre Sauveur qui nous a sauvés et qui nous sauve ? Père, je te bénis. Je te bénis pour Jésus, notre Sauveur. Je te bénis parce qu'il est venu donc pour être celui qui nous pardonne nos péchés. Il est venu pour nous donner de pouvoir donc venir à lui et te demander ce pardon pour se tourner vers toi, bien sûr, mais aussi pour marcher en sainteté de vie. Et je te prie que, en ce Noël, nous nous rappelions que cette œuvre de salut, c'est aussi cette œuvre de sanctification que tu veux faire dans nos cœurs. Et que proclamer que Jésus est notre Sauveur, c'est aussi accepter que son Esprit nous montre là où encore nous avons besoin de venir au pied de la croix. Alors Père, je te bénis pour cette œuvre de vie. Je te bénis parce que ton désir, c'est pas de nous dire que nous sommes des pécheurs, mais ton désir, c'est de nous dire que nous sommes tes enfants et que si le péché donc, s'installe dans nos cœurs ou est installé dans nos cœurs, donc nous pouvons alors venir au pied de la croix. Et si le péché nous séduit, nous pouvons résister avec Jésus. Il est notre Sauveur et le victorieux. Béni sois-tu encore. Amen.